au réseau Cogeco.
Auto 360
avec Daniel Boudreau. Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Bon, nous voilà de retour, enfin de retour, et Philippe Lagu est là. Il y a quelques instants, Philippe nous a parlé de Maserati, et on va rester pas tout à fait trop loin, je pense, un de l'autre. Et là, cette fois-ci, Philippe, c'est Lamborghini.
On reste même proche géographiquement parlant.
C'est ça.
Parce que Maserati, on est à Modène, et Lamborghini, on est à Sant'Agata, qui est juste à côté de Bologne. Donc, c'est à peu près pour une demi-heure de route. Et s'il y a une marque qui m'a fait rêver dans ma jeunesse, Daniel, c'est Lamborghini. À cause de deux modèles en particulier, on va y revenir, des modèles d'ailleurs dont le design a marqué l'histoire de l'automobile, il y avait chez Lamborghini une audace, puis je dirais même un côté iconoclaste, qu'on ne voyait pas chez Maserati et chez Ferrari, qui était plus conservateur. Et d'ailleurs, chez Maserati et chez Ferrari, on regardait Lamborghini de très haut au début. Hein. Ils ont vite déchanté, par exemple.
Ben là, il y a eu raison, parce qu'à leur tout début, ils ne fabriquaient pas des autos, là.
Ouais, ben justement. Bon, on commence par le commencement et c'est là que tu m'amènes. Au tournant des années 60, Ferruccio Lamborghini est un riche industriel italien dans la quarantaine qui a fait fortune en construisant notamment des tracteurs. Des tracteurs qui portent son nom. Mais bon, c'est un entrepreneur, il est aisé, il a des moyens, et c'est aussi un amateur de belles voitures aux mécaniques sophistiquées, et il roule avec ce qu'il se fait de mieux à l'époque. Alfa Romeo, Lancia, Maserati, mais il y a aussi une Mercedes 300 SL, une Jaguar type E, bref, Ferruccio aime le beau.
Oui, c'est
hein?
ça.
hein? Ouais. Puis il roule aussi en Ferrari, mais il est exaspéré par leurs caprices. Puis il va d'ailleurs s'en plaindre directement à Enzo Ferrari. Pas de niaisage, il va aller le voir directement à son bureau. Faut dire que Lamborghini habite tout près à Modène. Et il n'est pas du tout intimidé par Enzo Ferrari. Parce qu'Enzo Ferrari jouait beaucoup là-dessus aussi, hein, imposant personnage, ses lunettes noires tout le temps et tout ça. Avec Ferruccio Lamborghini, ça ne marche pas du tout, du tout. Il se considère comme l'égal de Ferrari. Ce sont d'ailleurs deux entrepreneurs qui ont réussi dans la vie. Ils ont d'ailleurs tous les deux été anoblis du titre de commendatore par le gouvernement italien en raison de leur réussite. Alors, le grand seigneur de Maranello, M. Ferrari, considère son client plutôt comme un parvenu et le traite avec mépris. Selon la légende, il aurait répondu, et là j'ouvre les guillemets, « Lamborghini, vous êtes peut-être capable de conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais conduire une Ferrari convenablement. »
Oh boy!
Autrement dit, le problème est entre le siège et le volant. Et si c'est vrai, s'il a vraiment dit ça, Enzo Ferrari, ben il va regretter cette phrase pour le restant de ses jours. Parce que Ferruccio Lamborghini, lui, il est piqué au vif et il décide à partir de ce moment-là de construire ses propres voitures, rien de moins. Et en jurant, bien sûr, qu'elles vont être meilleures que les Ferrari. Et comme il a les moyens de ses ambitions, bien, il se fait d'abord construire une usine ultramoderne et il va aussi recruter des hommes de talent. Giotto Bizzarini, Gianpaolo Dallara, Paolo Stanzani. Le premier, là, Giotto Bizzarini, il jouit déjà, lui, d'une solide réputation parce qu'il a participé à la conception de la légendaire Ferrari 250 GTO, qui est une machine à ce moment-là imbattable sur les circuits. Là. Puis les deux autres, Daniel, et là ça devient intéressant, les deux autres, c'est des jeunes coqs. Dallara, lui, arrive de chez Maserati, mais il est dans la mi-vingtaine. Paolo Stanzani sort tout juste de l'université. Et à partir de là, tu vas voir, les affaires ne traînent pas. La société Lamborghini voit officiellement le jour le 1er juillet 1963 à Sant'Agata, qui est un minuscule village là, à mi-chemin entre Bologne et Modène. Et son premier modèle, la 350 GT, est présentée en mars 1964. C'est pas long, ça, là.
Ça a été vite.
Hein? Au Salon de Genève, comme le seront d'ailleurs toutes les Ferrari par la suite. Et ça, c'est une GT qui est magnifique, qui a été dessinée par Franco Scaglione, mais qui est de facture assez classique, autant dans ses formes que dans son architecture.
Ouais, c'est pas aussi exubérant qu'aujourd'hui.
Non, mais je dirais même que c'est pas aussi exubérant que ce qui s'en vient.
Okay.
Mais bon, elle a quand même tout ce qu'il faut, à commencer par un V12 sous le capot, hein, quand même. Les Maserati, par exemple, n'avaient pas de V12. Mais en même temps, techniquement parlant, il n'y a pas de révolution là. Le coup de tonnerre, là, il va se produire en 1966 avec le lancement de la Miura. qui est une GT spectaculaire dont la conception révolutionnaire va faire école. Sa conception, qui a d'ailleurs été confiée à 4 jeunes intrépides qui n'ont pas encore 30 ans, là, Gianpaolo Dallara et Paolo Stanzini, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi le Néo-Zélandais Bob Wallace, qui devient le pilote essayeur attitré de Lamborghini, et le designer Marcello Gandini, qui est l'étoile montante de la prestigieuse maison Bertone, hein, les fameux studios de design italiens. Alors, Ferruccio Lamborghini, lui, au début, il trouve le projet beaucoup trop audacieux, mais le quatuor de jeune coq persiste et la maquette de la Miura va finir par convaincre le grand patron. D'ailleurs, si vous regardez sur mon site www.philippelagu.com, vous pouvez voir d'ailleurs une photo de Ferruccio Lamborghini qui tient la maquette dans ses mains. Et quand je dis que c'est une voiture révolutionnaire, regarde, avec son V12 qui est monté transversalement, et qui est placé au centre de la voiture. Ça, à l'époque, là, c'était une solution, une architecture qui était réservée seulement aux voitures de course. Et il y a aussi sa carrosserie, qui est aussi moderne que sulfureuse. Hein? Ça a quelque chose de sensuel, une Miura dans son design, et ses performances qui font d'elle la voiture la plus rapide au monde à ce moment-là. Ben, tout ça fait en sorte que la Miura marque un point tournant, non seulement pour Lamborghini, mais pour l'industrie automobile. Parce que dans l'univers des sportives, là, on peut dire, sans se tromper, qu'il y a eu un avant et un après Miura. Et ça, ben, ça va mettre la barre très haute pour sa remplaçante. Mais Lamborghini va frapper un autre grand coup avec la non moins spectaculaire Countach, qui est présentée en 1971 au Salon de Genève. Et juste avec ces deux modèles, Daniel, là, la marque Autoro, le taureau qui est d'ailleurs le signe zodiaque de son fondateur, juste avec la Miura et la Countach, Lamborghini est déjà assuré de passer à l'histoire. Puis la Countach, ben, je pense que ça, on peut vraiment dire que ça a été le poster car d'une génération. Je sais pas si tu en avais une dans ta chambre.
Tout le monde a un modèle réduit, en tout cas.
Modèle réduit. Là, moi, j'ai 53 ans. T'as quel âge, toi, Daniel?
5 ans.
C'est ça. Moi, le modèle réduit, c'était plus la Miura. Mais les Countach aussi, là, en modèle réduit, c'était incontournable. Là. Alors, mais ceci étant dit, ça part fort, comme on dit, pour Lamborghini. Mais la suite va être un petit peu plus chaotique. Entre autres, à cause du premier choc pétrolier, hein, 1973, qui va porter vraiment un dur coup là, à toutes les marques qui font des voitures puissantes, là, toutes les marques de voitures exotiques, qu'elles soient italiennes ou anglaises ou peu importe. Il faut dire aussi que l'Italie, dans les années 70, c'est des années mouvementées. Hein, on a appelé ça les années de plomb, et c'est marqué par l'agitation sociale, mais aussi la violence. Parce que là, l'Italie, ils sont pas juste aux prises avec la mafia, ils sont pris avec le terrorisme, et c'est un terrorisme intérieur. L'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Bref, ça brasse en Italie dans les années 70. Et Ferruccio Lamborghini, finalement, va vendre ses parts. En 1973, il va se retirer dans son vignoble, près de Pérouse, où il va mourir d'une crise cardiaque en 1993, à l'âge de 76 ans. Entre-temps, ben, la société Lamborghini a vécu, elle aussi, des années chaotiques. Hein? Elle a changé de main une demi-douzaine de fois, il faut le dire. Et finalement, ben, la situation s'est stabilisée depuis son acquisition en 1998 par le groupe Volkswagen, qui l'a placé sous la gouverne d'Audi. Et depuis, ben, Lamborghini, il faut le dire, hein, c'est jamais aussi bien porté, avec des modèles qui continuent de frapper l'imagination et une production qui est en lente mais constante progression. Hein. On tient ça quand même en bas de 5000 pour garder vraiment, l'exclusivité, mais je pourrais même dire l'ultra-exclusivité, parce que Lamborghini produit moins de voitures que Ferrari. Et dire que tout ça a commencé, selon la légende, avec une phrase mal placée d'Enzo Ferrari à l'endroit d'un de ses clients. Hein, quand même.
Ouais, oui, un constructeur de tracteurs.
Mais qui aujourd'hui fait des voitures qui font rêver tout le monde, même les...
D'un extrême à l'autre.
Oui, puis même les chroniqueurs automobiles comme toi et moi qui ont la chance de conduire des très, très belles voitures. Une Lamborghini, on n'est pas insensible.
Ça reste une Lamborghini,
que c'est bien dit.
Merci beaucoup, Philippe.
Ben, c'est un plaisir, Daniel.
On se reparle la semaine prochaine. Bien gentil à toi.
C'est le cas de le dire. Ciao.
Ciao, ciao. On revient.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Petite pause. On revient ensuite. Restez là. au réseau Cogeco. Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Oui, nous sommes de retour. Je vous donne les numéros parce qu'on va vous parler dans un instant. Pour Montréal, 514-790-9850. Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850. Auto 360 à cogecomedia.com. On se débarrasse de quelques petites nouvelles. David, Michel est là, entre autres. Et on est à vous dans un instant. On va se débarrasser aussi des pubs. On va tout enlever dans l'émission. On va faire juste la tribune bientôt. Marc, des nouvelles.
Oui, ben une nouvelle un peu particulière. C'est un rappel de BMW. Mais... Hein? Drôle de rappel, OK? En fait, il y en a deux qui affectent 1,4 million de véhicules aux États-Unis, mais seulement 80 000 au Canada. Je m'explique. C'est un rappel qui fait que les voitures pourraient prendre en feu. Et c'est tellement sérieux que BMW dit aux gens, stationnez votre voiture à l'extérieur, pas dans le garage, tant que le rappel n'a pas été fait. OK? Alors, c'est quand même important. Il y a deux rappels différents. Le premier, en fait, c'est une espèce de chaufferette qui va chauffer à l'intérieur, qui pourrait surchauffer à faire fondre différentes valves à l'intérieur et créer un feu. Ça, 80 000 véhicules touchés, dont celle au Canada. Et là, ben, on parle de les séries 3 en général. Les séries 5, les X3, X5, Z4, en fait, entre 2007 et 2011, qui ont le moteur avec 6 cylindres.
6 cylindres en ligne, oui.
C'est ça. 6 cylindres en ligne, ça va. Là, l'autre élément, c'est que les fils de climatisation et de chauffage peuvent aussi fondre et prendre en feu. Ça, c'est sur d'autres modèles, ben, encore les séries 3, bien entendu, les M3, notamment entre 2006 et 2011. Le problème, en fait, c'est qu'au Canada, on n'a pas ce rappel-là. Alors, aux États-Unis, les autos peuvent prendre en feu, mais au Canada, BMW n'a pas encore confirmé que le rappel serait fait. Donc, je vous invite quand même à aller rendre une petite visite à votre concessionnaire pour être certain que vous ne verrez pas votre BMW partir en fumée dans votre garage.
Effectivement, effectivement. David est en ligne. Bonjour, David.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est à vous.
Oui, moi, j'ai toujours acheté mes véhicules en fonction du coût d'achat, du coût d'essence puis du coût de réparation.
Okay.
Et là, j'ai un changement d'emploi, puis j'ai besoin d'un véhicule pour le standing. Donc, ça me prend un véhicule de luxe, idéalement, qui ne me coûtera pas trop cher, donc usagé, pas trop cher d'essence, puis pas de réparation. Puis là, vos nouvelles concernant BMW viennent un peu de me refroidir, là.
Ouais, c'est un rappel. Ça, un rappel, c'est presque rassurant, à la limite, parce que BMW fait son travail. Mais faut dire qu'il n'y a pas juste ce problème-là, par contre.
Et dites-vous qu'il y a 972 rappels qui ont été enregistrés l'année passée parmi toutes les marques. Alors, ça va être difficile de trouver une marque qui n'a jamais eu de rappel.
C'est ça. Okay. Mais si vous voulez de la fiabilité, et c'est votre, c'est quelque chose de très, très important pour vous, surtout que vous regardez pour un véhicule de luxe d'occasion, je vous suggère peut-être plus si le plaisir de conduire n'est pas la chose numéro un pour vous. Vous allez devoir vous en aller dans les japonaises de luxe, là, Acura et Lexus.
Acura Lexus, OK.
Ouais, Lexus est encore numéro un, on l'a vu, au niveau des voitures de luxe en termes de fiabilité par Consumer Report. Donc là-dessus, vraiment, vous n'aurez aucune difficulté. Évidemment, là, après ça, ben oui, il y a aussi Infiniti qui pourrait être intéressant de ce point de vue-là, mais qui est peut-être un peu moins fiable, je vous dirais, à long terme.
OK. Donc Lexus puis les Américaines?
Ben, dans le luxe, ça allait être dans le mi-luxe, parce que les Américaines, même si on veut dire qu'on a des branches de luxe, puis si vous cherchez le prestige, une Buick. Pas tout à fait prestigieux. Il y a juste Cadillac. Lincoln aussi est demi-luxe, là, qui commence à être... Je pense que Lincoln commence... Avec la Continental, on a fait un pas en avant. Je pense que Lincoln, on commence à se positionner drôlement bien. Buick, ça reste une belle petite division que j'apprécie de plus en plus, d'ailleurs. Et Cadillac, par contre, si vous voulez vous trouver un ATS ou un CTS, vous n'aurez peut-être pas la même fiabilité, mais vous allez avoir du plaisir de conduire. C'est des voitures qui sont quand même assez solides.
Je suis obligé de vous dire que Cadillac, je vous parlais du classement Consumer Report tout à l'heure, la dernière position cette année, c'est Cadillac. En termes de fiabilité, ce n'est pas nécessairement un modèle, je vous dirais.
Bon, parfait. Merci,
merci d'avoir appelé. Michel est en ligne. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour. J'ai réservé une Tesla 3 là, en avril 2016. Et je me demandais si c'est toujours une option intéressante ou si les autres constructeurs s'en viennent avec des piles qui vont permettre là, une plus grande autonomie. Là. Tesla nous parle de 320 000 d'autonomie là, avec le premier modèle du Tesla 3 qu'ils fabriquent. Les 220 000 vont venir après. Est-ce que c'est toujours là une bonne idée de laisser son 1 000 $?
Bon, là, au début de l'émission, on a parlé un peu de Tesla. Est-ce que vous étiez avec nous?
J'ai manqué.
Non, malheureusement, vous avez manqué ça.
J'étais sur la route.
Alors, Marc nous a fait quand même... Marc, peux-tu nous faire un petit rappel rapide de ce que tu as dit sur Tesla?
Rapidement, là, la Tesla Model 3, on devait faire 5000 véhicules en 2018. On en a fait 260. On espère être en mesure de faire 5000 véhicules d'ici la fin du mois de mars, mais on n'est pas sûr. Et on a annulé la commande pour l'équipement pour une deuxième ligne de montage. Donc, c'est pas un mauvais choix, mais vous allez avoir votre Tesla dans quelques années seulement. Et je pense qu'il y a d'autres options. La Chevrolet Bolt en est un exemple, entre autres, là.
Mais moi...
Oui, mais dans tout électrique...
Ouais, oui, dans la Bolt, électrique, oui. La Bolt est tout électrique et elle fait...
Ah, je pensais qu'il y avait une génératrice dans la Volt. Non,
la Volt, mais nous, on parle de la Bolt B.
Ah, d'accord.
OK? Elle est petite, elle est moins glamour, elle est moins sexy que l'autre, ça, j'en conviens, que le Model 3. C'est pas tout à fait la même formule de voiture. Celle que moi, j'attends, qui va arriver bientôt, c'est la BMW i5... que j'ai trouvé extrêmement belle. Je pense que c'est plus réussi encore qu'un Model 3 au niveau du style, du design. C'est une belle voiture avec, semble-t-il, des caractéristiques qui vont rejoindre la Model 3 presque directement. Et au niveau du prix, je présume que ça va être en même peut-être plus intéressant encore que la Model 3. Alors, celle qui va arriver pour concurrencer Tesla sur nos routes en premier... Je pense que c'est la i3 CBMW qu'on doit surveiller du coin de l'œil.
Ouais, le problème, I3, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a
la
beaucoup
i5,
de,
qui n'est pas encore arrivée.
On ne sait pas exactement c'est quoi, là.
On n'a que du oui-dire. Mais au niveau des dimensions, ça risque d'être à peu près pareil. C'est la plus prometteuse des voitures 100% électriques à long kilométrage.
Est-ce disponible en traction intégrale?
On n'a pas de détails techniques. Je peux même pas vous certifier un kilométrage, mais on pense que ça va tourner autour des mêmes kilométrages que la Model 3 annoncée. Donc, il faut s'attendre à près d'un peu plus de 400 km pour le modèle qui va vous en donner le plus.
Puis, je viens de vérifier tantôt. On parle toujours de décembre 2018 pour ma Tesla 3.
Ben, écoutez, je vous dirais que c'est faire preuve de beaucoup d'optimisme.
C'est ça.
Merci beaucoup.
J'y crois pas. Merci d'avoir
Merci
appelé.
Infiniment.
J'y crois pas. Soyez patient, mais moi, à moins que vous soyez dans les premiers à les avoir au Québec. Parce que normalement, Tesla envoie des voitures un petit peu à gauche et à droite. Hein. Il envoie des voitures un peu partout. Puis après ça, au moins qu'il y en ait une qui roule dans chacune des provinces.
Ouais, mais tu vois, ce qu'ils ont fait avec la Model X, hein, c'est qu'ils ont choisi leurs clients. C'était donc des gens qui étaient déjà clients chez Tesla qui ont eu les premières Model X au Canada comme partout ailleurs. Et écoute, ça veut dire que ça, là, pour quelqu'un qui n'est pas actuellement client, qui est sur la liste des 400 000, ça se peut qu'ils attendent pas mal plus loin. On parlait d'avoir fini en 2021 la livraison de tous les véhicules promis.
D'ailleurs, c'est pas demain la veille. La concurrence va arriver d'ici ce temps-là. André est là. Bonjour, André.
Oui, bonjour. J'ai une question concernant un remplacement de véhicule, un deuxième véhicule. Mon épouse se promène avec des Lexus IS250 depuis une dizaine d'années. Puis là, elle hésite entre un Audi A3 décapotable ou un BMW 240 décapotable. Qu'est-ce que vous suggérez?
Moi, j'aime beaucoup la A3. Je vous dirais que c'est une voiture que j'ai trouvée très solide, très agréable, plus fiable que la BMW. Honnêtement, j'aime la série 2, là, mais la série 2, pour moi, lui manque un petit quelque chose. Je trouve que la A3 est plus polyvalente et est plus homogène dans sa façon de se présenter. Moi, j'ai un faible pour la A3.
Est-ce que c'est une voiture pour garder longtemps ou c'est en location?
Non, c'est un achat, mais on garde jamais les véhicules plus ou moins 3 ans. Donc, c'est comme c'est le deuxième véhicule, puis elle fait à peu près 15 000 km par année avec ça.
Bon, ben moi, allez essayer chacun des deux. La petite série 2, moi, je l'ai trouvé vraiment le fun à conduire, cette voiture-là. Un peu plus le fun que la A3. La A3 est sexy. La A3 va avoir une bonne valeur de revente également, tout comme la série 2, parce que la 240, c'est des petites décapotables. Il n'y en a à peu près plus, sont recherchés. Au niveau de la fiabilité, avec le kilométrage que vous faites, je pense pas que ça vienne jouer beaucoup. C'est deux belles petites voitures dans un créneau qui en a de moins en moins de petites décapotables comme ça. Alors, mon choix penche un petit peu comme Marc vers la A3 en premier, puis la BM est pas un mauvais choix en soi.
OK, bien, je vous remercie.
Merci d'avoir appelé.
Bonne fin de journée.
Stéphane est là. Bonjour, Stéphane.
Bonjour. Vous parliez tantôt de la Countach, des petits modèles réduits. J'ai pas, j'ai un petit peu moins de votre âge, mais j'avais un gros cadre que j'avais acheté dans un encan avec qui avait des lumières dedans. Puis c'était une belle Countach rouge.
Oh. C'est beau, ça.
Puis, petit commentaire juste de même un des messieurs qui parlait pour les véhicules de luxe. Je me demandais, un Kia Cadenza, ça pourrait-tu faire partie des véhicules de luxe ou un Hyundai Genesis? Ça peut-tu faire partie de ceux-là aussi?
Le Hyundai Genesis Plus, oui. Parce qu'il a donné naissance à la Genesis, la marque, oui, c'est vrai. La Kia Cadenza, c'est toujours le même problème, et vous avez le même problème avec la Nissan Maxima. Ce sont des grosses berlines qui sont bien équipées, qui sont bien faites, qui embarquent un peu dans la version de luxe, mais qui n'ont pas le prestige de la voiture de luxe. Donc, vous n'aurez pas les valeurs de revente, et vous n'aurez pas non plus tout l'équipement et toute la qualité des vraies voitures de luxe.
Ben, c'est un exercice parce qu'on se pratiquait. C'est ça. C'est de la pratique qu'on a fait pour en arriver vers la marque de luxe maintenant qui est Genesis. Mais Genesis est définitivement une marque de luxe et il se comporte comme une marque de luxe à venir jusqu'à maintenant. Si on regarde les garanties, si on regarde les choses qu'ils ont mis en place au niveau de la livraison des véhicules, de l'entretien inclus dans le prix. Donc, il y a plein d'affaires qu'ils ont amené qui est intéressant au niveau de Genesis. Alors, est-ce que ça va se transposer lorsqu'on va arriver avec des nouveaux modèles? Je pense que le G70 va être un beau modèle qui va arriver, qui va amener un peu plus de volume à Genesis. Mais pour ce qui est des premiers Hyundai Genesis et Cadenza, là, ouf! C'était de la pratique, mais c'était quand même réussi comme véhicule.
C'est des très bons véhicules. Moi, j'ai fait 900 km avec un Cadenza et honnêtement, j'ai rien à redire, mais vous n'avez pas le prestige d'un véhicule de luxe, c'est clair. Là.
Mm-hmm. OK. Je me demandais, j'ai un Kia Optima hybride. Je me demandais, éventuellement, là, il y a déjà 4 ans, ça peut être de quoi qui prêterait à temps de prendre un hybride rechargeable? Côté rapport qualité-prix, économie d'essence, où c'est comme la différence de prix est tellement... Il y a quand même quasiment 8 000 $ de différence entre un Usus hybride ou un hybride rechargeable. Ça peut être de quoi qui pourrait être intéressant.
Ça dépend de vos kilométrages que vous faites et de l'utilisation que vous en faites, parce que moi, je dis que oui, le branchable, l'avantage, c'est que si vous travaillez dans un rayon suffisamment court pour pouvoir aller au travail et revenir avec seulement de l'électricité, vous vous débarrassez du prix de l'essence à 100%. Donc, c'est là que le branchable devient très rentable pour quelqu'un. Si vous faites beaucoup de route, puis que vous partez, puis que vous faites énormément de route, c'est moins intéressant d'avoir le branchable. Mais si vous pouvez aller au travail et revenir 100% électrique, bien, imaginez ce que vous pouvez sauver. Donc, moi, je le recommande pour des gens qui restent dans un rayon raisonnable du kilométrage de l'autonomie de la batterie 100% électrique. Et à l'occasion, si vous dépassez le et que vous embarquez sur le moteur essence, ça va être parfait. Mais au moins, vous allez avoir votre économie avec le 100% électrique. Et ça, le branchable, pour moi, est le choix numéro un.
Puis écoutez, je conduis actuellement une BMW branchable. J'ai même fait Montréal-Québec. Et tu peux activer au moment où tu le veux la portion 100% électrique. Donc, quand j'étais sur autoroute, ça m'a permis de recharger un peu ma batterie. Et honnêtement, ça m'a jamais coûté si peu d'argent pour une si grosse voiture.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Je dois vous laisser là-dessus. Malheureusement, on doit aller à la pause. Et au retour, on va poursuivre les appels. Mais on va avoir aussi Jesse Caron du CA qui va être là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360, avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, l'invité de la semaine.
Nous sommes de retour à Auto 360 et je suis maintenant en compagnie de Jesse Caron, expert auto à CAA Québec. Bienvenue à Auto 360.
Salut Daniel, merci.
Alors Jesse, tu vas nous parler de Tokyo. Tu as fait un beau voyage là-bas et il y a des points que tu as vus ou des points d'intérêt au niveau des autos vers où on se dirige qui rejoignent pas mal les idées du CA Québec.
Effectivement, au CAA Québec, nous, on est bien ouverts aux nouvelles technologies pour ce qui est des sources d'alimentation, disons, alternatives des véhicules. On sait que le moteur à essence seul, ça va tendre à s'amenuiser. Il y en a encore pour longtemps, mais on sait que ça va se réduire. Donc, là-bas, à Tokyo, on nous a parlé beaucoup de véhicules à hydrogène. Donc, on nous parle beaucoup de véhicules électriques ici. On en entend évidemment parler, on en essaie. Nous, on en fait essayer dans les salons de l'auto. Mais, il y a des limites, évidemment, à la technologie électrique. C'est la recharge, l'autonomie. Bon, le prix est encore élevé. On peut contourner tout ça, mais pour plusieurs personnes, c'est encore des freins. Il y a l'hydrogène, qui est une autre technologie qui a été présentée, notamment par Toyota ces dernières années, par Honda aussi. Et là, Toyota nous a présenté plusieurs concepts de véhicules qui pourraient être fonctionnels à hydrogène. Pour eux, là, c'est une solution intéressante parce que ça donnerait beaucoup plus d'autonomie et ça permettrait un ravitaillement plus rapide que les véhicules électriques.
Ben c'est ça, ça donne un véhicule. Parce que j'ai fait l'essai de la Mirai, j'ai bien aimé cette voiture-là, d'ailleurs, qui se comporte comme une voiture hybride traditionnelle qu'on conduit.
Exact.
La batterie fait pas, on entend un petit peu les injecteurs de la batterie, mais ça fait à peu près pas de bruit. J'ai été vraiment impressionné par cette technologie-là. Par contre, c'est la production d'hydrogène. Il y a des réservoirs aussi qui sont dans le véhicule, mais cette technologie-là, si il y avait des installations, je pense que ça pourrait marcher.
Ça pourrait peut-être marcher, mais c'est ça. Bon, qu'est-ce qui va arriver avec la construction de stations-service? Qui va investir là-dedans? Est-ce qu'on aura besoin de subventions encore une fois? Probablement. Mais Toyota nous a présenté notamment dans la ville de Yokohama, qui est à peu près à 45 minutes de Tokyo, il y a une petite centrale de production d'hydrogène à partir de l'éolienne. Donc, on utilise le vent pour produire éventuellement de l'hydrogène. Et aussi là-bas, on utilise au Japon des déchets de la biomasse, donc des déchets carrément des égouts, là, des rejets des égouts pour produire de l'hydrogène. Donc, c'est des solutions qui sont testées. Au Japon, on est toujours à l'avant-garde. Hein?
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pas la seule technologie avant-gardiste qui était très présente au salon. On nous parlait aussi beaucoup de voitures autonomes, les fameuses voitures qui vont se conduire toutes seules. toi puis moi, évidemment, on n'est pas rendu là dans notre cheminement personnel. On aime conduire, mais on nous prône ces technologies-là pour améliorer le bilan de sécurité routière. Et on a pu essayer notamment une voiture qui est la Lexus LS 2018 qui était muni non seulement d'un système qui nous maintient au centre de la voie, là, ça on en a déjà ici, mais aussi d'un autre qui nous permettait de changer de voie tout simplement en appuyant sur le levier des clignotants. Et donc, c'est légal au Japon, ça fonctionne sur l'autoroute et ça fonctionne bien. Par exemple, s'il y a un camion dans l'angle mort, le véhicule va refuser de s'exécuter. On espère bien qu'il le fasse et ça a bien tourné pour nous.
Il va falloir qu'au Québec, on commence par une chose, savoir qu'il y a des clignotants sur notre voiture.
C'est un bon point.
Mais ça peut aider. Donc, la voiture, mettre clignotant, on ne touche pas au volant et la voiture se tasse d'elle-même.
Se tasse d'elle-même et revient dans sa voie par la suite. Donc, disons qu'on s'ouvre l'œil sur ce qui s'en vient. Puis Tokyo, évidemment, le Japon, c'est le pays de toutes les technologies. Donc, c'est vraiment le bon microcosme là, pour aller voir tout ça.
Ben oui, c'est le fun. La voiture à hydrogène, d'ailleurs, on va en parler et en reparler. Donc, voiture propre qu'on peut 100% propre. Et ça, pour Toyota, c'est important. Et refaire le plein en 3 minutes. Donc, un plein traditionnel, somme toute. Mais il manque les installations. Puis la voiture autonome, c'est pas demain la veille, sauf qu'il faut travailler sur la technologie. Voiture électrique, là, on travaille là-dessus depuis 30 ans.
Oui, puis pour en revenir à l'autonomie, le grand patron, le grand gourou de la sécurité, ou en fait de la technologie chez Toyota, on a eu accès à une entrevue avec lui. Puis on a posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ça l'hiver? Est-ce que vous êtes prêt à lancer des voitures autonomes l'hiver? Et il nous a répondu, non, on n'est pas prêt à ça, donc il va falloir que ça vienne là, un peu plus loin dans le processus, mais encore une fois, c'est un défi majeur pour les constructeurs et les équipementiers qui veulent lancer ces technos-là.
Puisque tu as parlé beaucoup avec les gens de Toyota, est-ce qu'ils nous parlent d'une voiture 100% électrique? Parce que Toyota n'a toujours pas de voiture 100% électrique.
C'est vrai, c'est à l'horizon durant les années 2020, parce que Toyota travaille beaucoup sur la batterie, ils appellent ça en anglais la Solid State Battery, donc ça serait une batterie qui utiliserait des électrolytes solide au lieu de liquide, ça serait plus efficace, ça permettrait de faire une batterie plus petite. Donc, Toyota mise là-dessus pour lancer des véhicules 100% électriques, mais pour l'instant, avouons que c'est un grand constructeur qui se concentre beaucoup plus sur l'hybride et peut-être sur l'hydrogène quand ça sera accessible au public.
Un pas en arrière pour deux pas en avant.
On va dire
pourquoi
ça comme
pas.
Ça.
Tu veux aussi nous parler de pneus d'hiver, parce que c'est la saison, donc il faut y penser à nos pneus d'hiver. Et vous avez des conseils aussi à Québec.
Oui, les pneus d'hiver, bien évidemment, tout le monde doit en acheter. On se demande souvent quel modèle acheter, quelle marque acheter. Il y en a plusieurs des très bonnes, mais avant même de parler de marque, il faut se poser des questions sur le type de conduite qu'on a régulièrement. Donc, si on parcourt beaucoup si on se promène beaucoup en ville, là, tu sais, autour de la ville puis en banlieue, on veut viser un pneu à glace et neige, un pneu qui va bien mordre sur la glace, qui va avoir donc plusieurs lamelles pour évacuer la fine couche d'eau qui se produit, là, qui se forme sur la glace. Si on roule beaucoup en campagne, bien là, à ce moment-là, des pneus à neige traditionnels, ça peut être intéressant parce qu'il y a des gros blocs qui mordent bien. Mmh. Par contre, et puis mais l'avantage aussi, c'est que ces pneus-là coûtent souvent moins cher. Et si on a une voiture plus luxueuse avec un 4 roues motrices, une BMW série 3 par exemple, une Lexus IS ou une Audi A4, mais là ou même certains VUS, on veut peut-être regarder du côté des pneus d'hiver performants pour pas trop sacrifier la tenue de route qu'on aime l'été quand on conduit ces véhicules-là. Tout ça existe et on a une capsule vidéo sur qui est accessible sur la page Facebook de CA Québec pour justement guider les gens dans l'achat de pneus d'hiver. C'est pas donné, mais c'est le temps, là, c'est vraiment le temps. Si vous avez pas pris votre rendez-vous, dépêchez-vous parce que vous allez peut-être même manquer de modèles parce que les plus populaires, ça part vite. Là.
Absolument. Et bien connaître ce qu'on fait, bien connaître ses besoins pour pouvoir les communiquer à son conseiller de pneus, va faire en sorte que lui va pouvoir y répondre davantage et justement poser les bons pneus sur notre véhicule.
C'est en plein ça.
Merci beaucoup, Jesse Caron.
Merci, au revoir.
Expert auto au CAA Québec. On s'arrête à Auto 360 et on vous revient. Restez avec nous.
Auto 360. Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Bon, on est de retour enfin de retour. Je sais pas si c'est moi, mais on dirait que je les trouve de plus en plus longues, ces pauses-là. J'ai hâte de vous parler pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec, 418-670-9330, ou ailleurs, 1-866-790-9850. Est-ce qu'on a quelqu'un? Ah, juste avant d'aller en ligne, Marc, t'avais une nouvelle pour nous.
Oui, une nouvelle importante, parce qu'en fait, c'est le CAA Québec, notre ami Jesse qui vient de passer, qu'on vient de voir. Ils ont lancé hier une demande, en fait. Ils demandent au gouvernement du Québec, à partir du Fonds vert, de financer un programme d'inspection des véhicules âgés de 8 ans et plus. Pourquoi? C'est parce que eux autres ont fait une étude, et sur 511 véhicules étudiés, il y en a 31% qui ne passent pas les normes environnementales. Alors, ce qu'ils disent, c'est le fun d'investir dans les voitures électriques, ça va diminuer les gaz à effet de serre, mais si on ne fait que corriger ces problèmes-là, et la plupart des problèmes, c'est niaiseux, là. Ça va jusqu'à un bouchon de réservoir à essence craqué, tout simplement, des trucs assez simples. Donc, si on corrigeait ça...
d'oxygène, etc., catalyseur.
Des trucs comme ça, on réussirait à corriger beaucoup, beaucoup des problèmes environnementaux et de diminuer, selon eux, de plusieurs pourcents les gaz à effet de serre. Je pense que c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée, mais ça ne marchera pas.
Pourquoi ça ne marchera
que
pas?
Parce que financer des réparations... Ça va devenir incontrôlable. Il faut que ce soit des réparations qui sont directement liées au système anti-pollution et ils n'auront pas de contrôle sur chacune des réparations et les coûts peuvent devenir astronomiques.
Bien, il faut qu'ils le fassent comme ça, mais ça se fait ailleurs. Dis-toi qu'actuellement, tous les pays européens ont un programme d'inspection. Il y a 6 provinces canadiennes qui ont un programme de ce genre-là. Il y a 35 États américains qui en ont un. Je pense qu'on est rendu là. Puis c'est pas un geste. Écoute, il y a 300 millions dans le fonds vert. On peut s'en servir au lieu de le donner à Air Canada pour qu'ils achètent du gaz différent pour leur avion, là?
Bien, c'est ça. On va continuer de le donner à ses amis, mais au moins, moi, je voudrais qu'on puisse exiger l'inspection pour un véhicule de 8 ans et plus à la revente. Inspection obligatoire. Quand tu revends ton véhicule, ça te prend un certificat de conformité. Tu dois aller faire inspecter ton véhicule, le rendre conforme, et c'est seulement là qu'on pourrait aider la personne qui veut revendre son véhicule. Le contrôle serait plus efficace que, justement, laisser aller tout le monde au garage, puis prendre des factures, puis les payer ici et là. Et on connaît des garagistes qui sont un peu plus vite que d'autres. Y a-t-il des réparations qui vont avoir vraiment été faites ou pas? Je te dis qu'ils n'embarqueront pas là-dedans, le gouvernement. Sauf qu'une inspection à la revente pour un certificat de conformité, ça pourrait être peut-être un peu mieux et un peu plus facile à encadrer.
Ouais, mais en tout cas, moi, je pense que tous les véhicules de 8 ans devraient avoir une inspection obligatoire avant de renouveler l'immatriculation. Ça devrait être un minimum.
Pas à chaque année, à la revente.
Ben, au moins,
commençons
ans.
Par le début, là.
Oui, mais au moins deux ans, c'est pas. C'est une affaire.
Il y en a
une
pas.
Inspection,
là.
Ça coûte 100$ pour un véhicule.
On se fait de la politique sur le dos des gens parce qu'on veut être vert, on veut être vert, on veut être vert. On ramasse l'argent de l'essence, ça nous dérange pas. Puis quand vient le temps de justement régler le problème qui est dans la rue en ce moment, on fait rien. Fait que c'est ça. Pierre est là. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour. Je voudrais m'acheter un camion diesel. On m'a dit de venir loin des 6 litres de Ford parce que c'était des moteurs à problème. Je vois qu'il y a beaucoup de 6.4. C'est quoi la différence entre le 6 litres et le 6.4 litres?
Le 6.4 est encore... Il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est rendu avec le 6.7 litres qu'on est passé à une nouvelle génération de moteurs du côté de chez Ford. Vous regardez quand même quelque chose assez d'occasion, là.
Oui.
De plusieurs années. Alors là, la première chose, je vais vous dire, là, oui, c'est beau de voir la fiabilité du moteur, sauf que si on regarde juste la fiabilité du moteur, puis on regarde pas d'autres choses, vous allez, je suis obligé de vous envoyer vers du Cummins, si vous voulez vraiment aller chercher fiabilité moteur. Okay. Maintenant, il y a aussi l'état général du véhicule qui est vraiment important, parce que si vous regardez quelque chose d'aussi loin qu'un 6 litres, ça veut dire que vous remontez quand même assez loin au niveau des années. C'est l'inspection du véhicule. On a parlé des systèmes anti-pollution, on a parlé du taux de compression du moteur que vous allez devoir faire. Regardez de très, très près. N'achetez pas de véhicules comme ça, diesel, qui ont travaillé fort sans le faire inspecter minutieusement.
Oui, non, ça, je le sais. Mais, ben, dans le fond, comme je demandais, entre le 6 litres et le 6.4, y a-t-il une différence dans les côtés problèmes qu'ils ont eu des moteurs?
Ben, le 6 litres a eu plus de problèmes que le 6.4.
Okay.
Et je sais qu'ils ont remplacé quand même plusieurs, ils ont joué quand même dans plusieurs moteurs. Je me souviens plus du fournisseur, là, c'était Freightliner, je me souviens plus du fournisseur de moteurs de Ford pour leur moteur diesel. Mais à tout le moins, le 6 litres, c'est peut-être le moteur à éviter. Le 6.4, déjà, ils ont eu moins de problèmes. Le 6.7, ils ont eu des problèmes aussi, mais ça s'est résorbé davantage.
Ils ont réglé le 6.7.
Ils ont réglé une bonne partie avec le 6.7, effectivement, parce que le 6.7, lui, c'est vraiment développé par Ford. C'est la nouvelle génération de moteurs qui sont des moteurs Ford.
Le 6 litres, c'était le Navistar. Là. C'était le Power Stroke Navistar de 6 litres qui a eu des problèmes d'ici à demain matin. Là. Ça a été abondant, le nombre de problèmes, et on a même remplacé des moteurs avec cette version-là. On ne touche pas à ça, en tout cas le moins possible. Mais comme Daniel le disait, c'est quand même un véhicule qui date de quelques années. Là.
Oui, exact.
Parfait. Merci d'avoir appelé. On a Louis en ligne. Merci. Alors, Louis, bonjour, Louis.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous?
Très bien.
Je regarde pour un CRV. Je pense aller soit dans le Touring ou dans le EXL. Votre opinion là-dessus? Et dans quelle année je devrais aller?
Ben, moi, le CRV, je n'ai pas vraiment de restrictions au niveau de l'année. C'est de trouver le bon véhicule au bon prix. Vous allez voir, c'est à peu près les mêmes générations de motorisation. On a changé la carrosserie. Alors, pour moi, je ne vois pas vraiment de problème avec le CRV. Vous en trouvez un qui a un bon kilométrage pour un prix que vous êtes capable de débourser. C'est pas mauvais de le faire inspecter, mais à la base, vous allez avoir un bon véhicule.
Oui, puis comme entre les versions, c'est strictement une question d'option. Ça va être vous qui allez voir le véhicule que vous allez trouver puis qui va correspondre à votre budget. Il n'y a pas de motorisation différente. Alors, c'est bonnet blanc, bande blanc, là, des deux.
Go, allez-y. Hervé est là. On termine avec Hervé. Bonjour, Hervé. Bonjour, Hervé. Hervé, c'est à vous. Hervé, c'était à vous. Hervé nous a quittés, malheureusement. On aurait pu parler. Estelle est là. Bonjour, Estelle.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
Oui, je regarde pour une voiture électrique. Je me pose deux questions. Entre les modèles Prius, la Volt ou la Leaf, je dois rouler 100 km par jour, sauf que je prends l'autoroute 30 direction Salaberry de Valleyfield, donc les grands vents, l'hiver et la neige. Côté tenue de route sécuritaire, quel est le modèle que vous me conseilleriez?
D'abord, vous avez deux véhicules différents. Là. La Prius, c'est pas un véhicule 100% électrique. C'est un véhicule hybride ou hybride branchable selon la version que vous prenez. Alors que les deux autres, moi j'irais pour la Volt, c'est la plus solide à mon avis.
La Volt ou encore la Prius. La Prius qui, au niveau longévité, va vous donner quelque chose de le fun. Merci à Marc, merci à Philippe, merci à vous d'avoir été là. Malheureusement, c'est déjà tout. On se reparle la semaine prochaine.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.